Bienvenue à Julien Soulier, qui est maître composteur de l'association Compost et Territoires, qui a pour vocation donc de développer le compostage en Drôme-Ardèche et qui travaille notamment avec la communauté de communes Royan-Vercors. Bonjour Julien.
Bonjour.
On a pu écouter donc quelques idées reçues sur le compostage individuel ou partagé qui ont été recueillies lors de micro-trottoirs menés sur le territoire du Royan-Vercors. Et pour y répondre, donc avec Julien, je vous propose d'abord de revenir aux bases du sujet. Comment ça fonctionne le compost ?
Alors comment ça fonctionne le compost ? Déjà, ce qui serait intéressant, ce serait de définir... il faut deux gros ingrédients dans le compostage. Il faut des biodéchets ou des déchets fermentescibles. Donc tout ce qui va sortir de la cuisine, hein, il reste des fruits, légumes, épluchures, même petits déchets de viande. Enfin voilà, tout ce qui va sortir de la cuisine potentiellement peut aller au compost. Et ça, idéalement, faut pouvoir le mélanger. Alors après, en bac, en tas, dans un trou, peu importe. Le mélanger avec des déchets plutôt bruns, ce qu'on appelle, donc qui sont plutôt chargés en matière carbonée, feuilles, petits branchages, broyés, ce qu'on appelle aussi du broyat. Et c'est en mélangeant ces matières, donc c'est en créant un équilibre carbone-azote, qu'on va avoir un processus de compostage qui se fait naturellement. En fait, on va simplement reproduire ce qui se passe dans la forêt. Les feuilles tombent dans la forêt à l'automne, elles tombent au sol, elles sont décomposées par les décomposeurs, la micro-macrofaune. Et ben c'est ça qui va se reproduire dans notre composteur individuel ou le composteur collectif. En faisant attention de réguler l'humidité, donc faire attention à l'eau, et aussi l'air. Il faut que le compost il puisse respirer, parce que ces petites bêtes, comme nous, elles ont besoin d'air pour pouvoir respirer, et donc travailler pour nous et décomposer la matière. Voilà simplement comment se passe ce processus de compostage. Et si on veut donc ce fameux équilibre carbone-azote, il va se réaliser en mettant des proportions de déchets. Donc à la louche, grosso modo, c'est pour une quantité de déchets de cuisine, je vais mettre à peu près une quantité, voire un peu moins, une demi-quantité de matière structurante ou matière broyée. Voilà.
Alors, on évoquait le compost qui se fait naturellement, par exemple, au sein d'une forêt. Dans une forêt, on ne remarque aucune odeur. Or, c'est une notion qui revient souvent quand on parle du compost, c'est celle de l'odeur. Est-ce que le compost, ça sent forcément mauvais et qu'est-ce qui sent mauvais dans le compost ?
Alors, la décomposition de la matière a une odeur. Si on a une pomme qui commence à pourrir, elle va sentir mauvais. Un petit déchet de viande ou de poisson va sentir. Donc, ce qui sent beaucoup dans un composteur, c'est tout ce qui est plutôt d'origine animale, hein. Viande, poisson, produits laitiers. C'est vrai que dans la forêt, ça sent pas parce que c'est plutôt de la matière végétale et elle est plutôt en fine couche, donc elle va se décomposer assez rapidement. Mais il y a une petite odeur de décomposition. L'odeur de l'humus, l'odeur de la forêt, hein, du bois qui pourrit, c'est ça qu'on va pouvoir retrouver dans un compost. Donc quand l'équilibre est bien géré, qu'il y a suffisamment d'eau, que c'est suffisamment aéré, ça ne sent pas, si ce n'est cette petite odeur, qu'on apprécie ou qu'on n'apprécie pas, hein. Mais après, quand il y a une odeur vraiment désagréable de putréfaction, donc quelque chose qui fermente, qui n'est pas en décomposition où il y a de l'oxygène, et ben là, c'est problématique et c'est plutôt un signal, c'est de nous dire, ah bah tiens, là, il manque du broyat ou des feuilles mortes pour équilibrer le processus de compostage, ou c'est trop humide. Donc il faut aérer et rajouter de la matière structurante. Donc voilà, si ça a une odeur, le compostage, la décomposition a une odeur, mais si c'est une mauvaise odeur, c'est qu'il y a un souci. Donc signal d'alarme, attention, qu'est-ce que je peux faire pour rétablir ce dysfonctionnement ?
Une autre idée reçue qui revient beaucoup, c'est la question des nuisibles, entre guillemets, ou des animaux indésirables qui vont être attirés par le compost, avec la question des rats qui revient souvent. Est-ce que le compost attire les rats ? Est-ce qu'il faut forcément se résoudre à avoir des rats dans notre compost ?
Alors, les rats, on va être clair, à la campagne ou à la ville, ils sont partout. Voilà, il y a des rats, ils sont beaucoup plus nombreux que les êtres humains. Ils étaient là avant nous, ils seront sûrement là après nous. Donc il faut se dire qu'ils sont là, on va vivre avec. Après, qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter l'accès au composteur des rats ? Parce que là, on va mettre un composteur, hein, faut imaginer, c'est d'un seul coup de la nourriture qui est facilement accessible à un rat qui est territorial, qui va vivre déjà chez nous ou sur la ville où on a installé des sites de compostage partagés. Donc on va faire attention. Ce qu'on propose, en tout cas quand on installe des sites de compostage partagés, c'est de mettre un grillage sur le fond du composteur pour limiter l'accès aux rats qui font des galeries dans la terre et qui remontent dans le composteur. avoir des composteurs aussi plutôt compacts et pas trop aérés ou ajourés pour limiter l'accès et l'intrusion. Et puis après, c'est une présence humaine aussi régulière sur un site de compostage, qu'il soit individuel ou collectif, qui va limiter, ou en tout cas, s'il est de temps en temps brassé, ou le composteur, c'est pas une poubelle où on jette des déchets puis on part. C'est on jette les déchets, on les étale, on les mélange avec d'autres matières, hein, donc comme je disais tout à l'heure, les feuilles, le broyat. Et le fait d'avoir une présence humaine ou quelque chose qui, enfin, en tout cas, ça va déranger les dérangeurs, en tout cas les nuisibles, hein, parce que là, c'est surtout des rats et des souris dont on parle, et ils auront moins tendance à venir nicher dans le composteur. Après, ça les empêchera pas quand même de venir chiper de la nourriture si la placette est pas, enfin si le site de compostage est pas bien entretenu ou qu'il y a pas une présence humaine régulière, quoi. Donc voilà, mais il faut quand même de la vie dans un compost, hein. Tout ce qui est, ce que je disais tout à l'heure, microphone, macrophone, les vers de fumier, les collemboles, les cloportes, mais aussi tout ce qui est larves d'insectes, hein, les larves de mouches sont des décomposeurs. Donc c'est là où je mettrai le curseur entre, oui, c'est pas agréable d'ouvrir son composteur et de se prendre une nuée de mouches dans les narines ou dans les yeux, mais elles font partie, ces petites bêtes-là font partie du processus de compostage, alors que effectivement la souris ou le rat est un opportuniste. Omnivore, donc il viendra se nourrir de nos déchets, hein. C'est pas parce qu'on met de la viande, des poissons et du produit laitier qu'on aura forcément des rats, mais c'est comment on fait attention pour éviter leur prolifération dans nos sites de compostage.
Oui, le compost, c'est aussi la vie et il faut l'accepter.
Tout à fait, c'est la vie. Il faut, le principe du compostage, on donne un gîte et un couvert aux petites bêtes du compost et c'est elles qui vont travailler pour nous et décomposer nos déchets à une matière qui est pas noble a priori, en un élément qui est très noble, c'est le compost. Hein. Le compost, c'est un amendement organique, c'est un peu un mélange entre un engrais et un terreau, et ça, on a tout intérêt de le valoriser sur nos sols, qu'on fasse de la culture ou pas d'ailleurs, hein, parce que nos arbres, nos végétaux, qu'ils soient ornementaux ou à but de se nourrir, ont besoin de matière organique, ont besoin d'éléments nutritifs, en tout cas d'éléments minéraux, mais ça passe par le processus de compostage. Ouais.
Oui, le compost nous permet de produire un engrais naturel de qualité, ça fait partie de ses bénéfices. Est-ce qu'il y a d'autres bénéfices qu'on peut rappeler en quelques mots ?
Oui, le premier bénéfice, c'est de dire ça m'a demandé un petit peu de temps, mais je peux récupérer du compost, ça m'évitera d'aller acheter du terreau ou de l'engrais à la jardinerie du coin. Et puis, sans aucune prétention, faire des analyses de ce compost-là, on se rendrait compte que c'est tout aussi bon que quelque chose qui est normé ou en tout cas dans un processus industriel. Et faire du compost avec nos déchets, on sait qu'aujourd'hui, la moyenne nationale, c'est à peu près un tiers de nos poubelles est composée de biodéchets, de déchets organiques. Donc, si demain, on arrive tous et toutes à sortir ces biodéchets de notre poubelle et de les composter individuellement ou collectivement, ce sera 30% quand même de déchets qui n'auront pas besoin de faire des kilomètres et des kilomètres dans des camions pour être traités dans des usines qui demandent beaucoup d'argent parce que ça demande du fonctionnement, dépenses énergétiques ou salariales, etc., etc. Donc on a tout intérêt à traiter cette matière-là au plus proche des territoires, hein, que ce soit sur le Royan ou le Vercors, pour éviter que la matière fasse des kilomètres. Et où la boucle sera bouclée, hein, c'est le cycle de la matière, c'est que un déchet produit à un endroit sera transformé au même endroit et sera valorisé à cet endroit-là. Donc on a vraiment le cercle vertueux de la matière organique. Rien ne se perd, tout se transforme.
Aujourd'hui, composter, ce n'est plus uniquement un choix personnel, c'est devenu une obligation.
Oui, alors presque. C'est devenu une obligation pour les collectivités à compétences déchets, comme la communauté de communes Royan-Vercors. Elle a obligation de fournir à ses habitants et ses habitantes une solution de tri à la source des biodéchets. Hein, c'est bien ça qui est obligatoire, c'est le tri à la source. Et le compostage, qu'il soit individuel ou collectif, est une solution de tri à la source, avec une valorisation in situ, hein, comme j'expliquais juste avant. Donc on gagne sur plusieurs tableaux de faire du compostage individuel ou collectif, parce qu'on va réduire les coûts, on va valoriser la matière sur place. On peut aussi, un des bénéfices de faire du compostage collectif, c'est aussi de recréer du lien social dans les villages, dans nos communes. Les gens vont pouvoir se rencontrer, discuter autour du composteur. Voilà, donc ouais, c'est tout à fait pertinent et aujourd'hui une obligation, mais autant c'est du bon sens en fait cette obligation. Il faut pas voir ça comme une contrainte, mais plutôt comme un pas supplémentaire au tri de nos déchets, comme on trie le verre depuis 50 ans, comme on trie le recyclable depuis une trentaine d'années, etc.
Alors si aujourd'hui certains ou certaines ne compostent pas encore, comment peuvent-ils s'y mettre si ce n'est pas encore le cas sur le territoire du Royan-Vercors?
Alors sur le territoire de la communauté de communes Royan-Vercors, c'est assez facile. Hein. Aujourd'hui, il y a des techniciennes qui sont dédiées aux biodéchets, donc qui proposent un accompagnement. Il y a pour installer des sites de compostage partagé hein, sur les communes. Voilà, donc vous allez contacter la Comcom. Il y a aussi des ventes de composteurs individuels à tarif préférentiel hein, pour inciter les habitants et les habitantes à faire ce premier pas. Parce qu'on sait que acheter un composteur, ça peut avoir un certain prix, ça peut être c'est pas forcément incitatif. Et là donc il y a vraiment une incitation, en tout cas il y a une volonté politique de déployer ou de continuer à déployer, hein, parce que ça fait quelques années que c'est en place sur le territoire, les composteurs individuels et les composteurs collectifs depuis 4-5 ans. Voilà, donc faut se retourner du côté de la Comcom quoi. Je peux juste rajouter aussi, c'est que c'est pas obligatoire d'avoir un composteur pour faire du compostage. Si on habite en habitat individuel et qu'on a un petit carré de jardin, un petit coin, on peut tout à fait faire un tas de nos déchets qui viennent de la cuisine et qui viennent de notre jardin. On peut faire du compostage en tas. L'outil ne fait pas le produit, hein, c'est l'utilisateur, l'utilisatrice qui va faire le bon compost. Et donc aussi dans le package proposé par la communauté de communes Royan-Vercors, en tout cas l'accompagnement des techniciennes, il y a aussi de proposer une ou deux fois par an en fonction des inscrits et inscrites une formation référente site. Donc c'est une formation d'une journée où on aborde le compostage individuel et collectif, et puis on va visiter un site de compostage partagé sur qui est en place, hein, fonctionnel sur le territoire, pour se rendre compte de ce qu'il en est, comment ça se passe et qu'est-ce que ça implique d'être référent. Donc ça, c'est des formations gratuites, ouvertes à toutes et à tous. En tout cas, il faut habiter le territoire de la Comcom Royan-Vercors.
Alors aujourd'hui, on évoquait ensemble les idées reçues sur le compost. Vous devez en entendre régulièrement dans le cadre de votre travail, donc puisque vous êtes maître composteur. Julien Soulier, est-ce que ce sont des idées reçues donc qui reviennent souvent, qui peut-être diminuent avec le temps? Est-ce que les gens sont mieux informés maintenant?
Alors oui, les gens sont mieux informés. Ça fait plus de 20 ans qu'on parle de compostage individuel. En tout cas, où les collectivités ont mis des moyens humains et financiers pour développer le compostage individuel. Depuis 2024, il y a donc cette obligation du tri à la source des biodéchets. Donc là, on remet une couche sur l'individuel et le collectif, on va dire, depuis une dizaine d'années. Donc l'information est de plus en plus prégnante. Ça n'empêche pas que on entend encore régulièrement les risques des rats, la qualité du compost sera pas forcément très bonne, mais il faut pas mettre les agrumes. Il y a encore beaucoup d'idées reçues sur le compostage qui sont véhiculées par des informations diverses et variées qui sont pas forcément fondées. Donc moi si je peux donner un conseil aux auditeurs, auditrices, ce serait de pouvoir aller sur le site internet du réseau Compost Citoyen Auvergne-Rhône-Alpes, où là, c'est vraiment les informations qui sont validées par le collectif, hein, ou en tout cas les adhérents du RCC Aura, ou au réseau Compost Citoyen National, où il n'y a pas à tergiverser sur des infos, quoi. Les infos, elles sont là, ce sont les bonnes. Après, à chacun, chacune, de se les approprier, de se sentir à l'aise aussi. J'entends que c'est pas forcément intuitif de composter des restes de viande, de poisson, produits laitiers par rapport aux peurs et aux risques que ça pourrait engendrer, mais d'y aller progressivement. Voilà, il n'y a pas de bon et de mauvais composteur. À partir du moment où on composte, c'est déjà qu'on n'a plus mis nos biodéchets dans la poubelle, donc on fait ce premier pas qui est un engagement citoyen, hein, c'est sûr. Hein.
Alors vous évoquiez, Julien, le réseau Compost Citoyen Aura. Vous êtes le relais départemental en fait de ce réseau. Peut-être qu'on peut en parler un peu plus dans le détail et notamment des actions qui sont portées par ce réseau.
Alors le réseau Compost Citoyen Auvergne-Rhône-Alpes, il y a plusieurs adhérents. Il peut y avoir des adhérents individuels, des associations, des collectifs, des collectivités. C'est vraiment de mettre en relation tous les acteurs actrices de la prévention, la gestion de proximité des biodéchets. Donc on parle beaucoup compostage, mais on peut aussi parler gestion différenciée, comment on va gérer nos déchets verts, hein, parce que ce sont aussi des biodéchets, donc déchets verts, déchets de tombe, feuilles, branchages, hein, tout ce qui va sortir du jardin. Plutôt que de les amener en déchetterie, ben, comment on va les valoriser sur place en faisant du broyat pour faire du paillage, pour mettre au compost, faire de la tonte mulching, enfin bon voilà, il y a plein de d'outils, de techniques. Et le réseau Compost Citoyen Auvergne-Rhône-Alpes, il porte aussi deux grosses actions dans l'année. Donc il y a la Tous au Compost, qui est un gros moment sur la fin mars, début avril, où là on fait la promotion du compostage au sens large, avec diverses actions sur le territoire. Et puis il y a la Fête du Sol Vivant, qui est au mois d'octobre. Et là, c'est aussi mettre en valeur le sol vivant, hein, la vie dans le sol. Et cette vie dans le sol permet de faire décomposer la matière. C'est cette même vie qu'on va retrouver dans nos composteurs, individuels ou collectifs. Et c'est ça qui va nous permettre de transformer nos biodéchets en un super compost et de remettre la matière au sol. Voilà, donc le RCC, le réseau compost Aura, existe depuis une grosse dizaine d'années. Voilà, il y a plusieurs déclinaisons au niveau régional et qui est porté par le réseau Compost Citoyen national.
Et alors, je vous ai présenté tout à l'heure comme maître composteur. Qu'est-ce que c'est exactement qu'un maître composteur ?
Eh ben, un maître composteur, ça va être une personne qui va travailler en collectivité. Hein. Ça peut être un agent de collectivité, ça peut être comme moi un individu, entreprise individuelle qui travaille sur la question des biodéchets en partenariat avec les collectivités. Moi, je suis aussi formateur, donc je vais dispenser les formations qui sont labellisées justement par le réseau Compost Citoyen. Donc voilà, ça va être la gestion de projet, l'accompagnement, développement de la prévention et gestion de proximité. Ça va être aussi d'être sur le terrain, installer des sites de compostage, trouver les ressources en broyat, parce qu'on sait qu'on a du broyat dans nos déchetteries et on a besoin de broyat dans nos sites de compostage partagés. Donc ça va être faire le lien, en fait, avoir un peu une vision globale sur on a du biodéchet qui est produit à un endroit, comment on peut le valoriser, comment ça peut intéresser les jardins partagés, ça peut intéresser des maraîchers, de mettre tous ces acteurs et actrices en lien et de se dire, si le biodéchet, il est valorisé sur place, et moins il fera de kilomètres, plus il aura un impact positif sur l'environnement au sens large, quoi.
Oui, de l'ultra-local, quelque part, pour l'utilisation,
oui,
du compost.
Tout à fait, de l'ultra-ultra-local, parce qu'on en a besoin de cette matière. En tout cas, les végétaux en ont besoin. Hein, le compost, il nourrit pas le végétal, le compost, il nourrit les petites bêtes du sol qui vont transformer ces éléments organiques en éléments minéraux. Ce sont vraiment les éléments minéraux qui seront repris par les plantes. Donc nos sols ont besoin de cette matière-là. Ouais.
Et est-ce qu'on a un moyen d'évaluer la qualité du compost une fois qu'il est décomposé ?
Alors on pourrait faire des analyses. Hein, le compost aujourd'hui qui est vendu en jardinerie ou distribué par l'entreprise locale ou vendu par l'entreprise locale qui fait du compostage à échelle industrielle, il est soumis à une norme. De temps en temps, les collectivités font des analyses, mais c'est pas forcément rentable pour elles de le faire sur chaque lot, sur chaque site de compostage partagé. Mais en tout cas, quand ces analyses ont été faites, les résultats sont plutôt bons, même excellents. En tout cas, ça répond à la norme. Donc on sait que notre compostage individuel ou collectif, même s'il est fait de façon, entre guillemets, artisanale ou low-tech, hein, parce que voilà, c'est un peu de travail à la main, à la fourche, ça n'empêche pas qu'il est qualitatif. Donc moi, personnellement, je préfère prendre le compost du site de compostage partagé de ma commune que d'aller l'acheter à la jardinerie du coin.
Eh bien, merci beaucoup, Julien Soulier, donc je le rappelle, maître composteur de l'association Compost et Territoire, donc qui nous parlait aujourd'hui notamment des idées reçues sur le thème du compost. Merci, Julien.
Merci, Anouchka, au plaisir.